Radio Campus Paris.
Est-ce que vous connaissez Emmanuel Cos?
Ça me dit quelque chose, journaliste ou un truc du genre, je sais pas.
Ouais, c'est celui qui a créé les Cos. Non, pas du tout. Tous les Cos, les restaurants. Il y a des Cos, les restaurants.
C'est Cos ou Cos?
Cos.
Emmanuel Cos.
Ça me dit quelque chose, mais je sais pas qui c'est.
C'est pas un militaire?
Vas-y, écris.
C'est une femme.
C'est une femme qui a fait l'armée, non?
Non, comme ça, non. Je sais pas, c'est un homme politique, un essayiste, un journaliste, qu'est-ce que c'est quoi?
Ah, c'est une femme? Je savais pas encore. Une journaliste.
Femme politique.
Militante, associative, journaliste.
Une militante pour des associations.
Ouais, je savais.
Ce nom me dit quelque chose, mais je vois pas trop.
Ouais, on sait que
ouais,
ça.
Ouais, c'est le truc d'écologie, tout
c'était
ça.
C'était la troisième secrétaire nationale d'Europe écologie.
Mais okay. C'est juste ça, les questions.
Personne ne connaît ça, ouais.
Vous n'avez pas de question.
Rien de demander ça.
Mais si, ça sert de demander ça. Bienvenue à tous dans la matinale. On est très heureux de vous retrouver. Nous sommes partis pour une heure ensemble. Et je le disais à l'instant ce soir, nous parlons politique et élections. On interroge un Radio Campus pour vous, tous les candidats au régional en Ile-de-France. Et ce soir, on est ravis d'accueillir Emmanuel Cos et la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors avec moi en studio également, Loïc et Thibault, la rédaction de Campus Paris. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors Emmanuel Cos, vous vous décrivez vous-même, alors pas comme militaire, mais je cite comme parisienne de naissance, francilienne d'habitude et européenne de conviction. Une identité multiple comme votre parcours finalement. Vous avez rejoint, en deux mots, vous avez rejoint au tout début FIDEL, le syndicat lycéen, puis ensuite ACT UP, l'association de lutte contre le sida, dont vous êtes devenue la présidente en 99. Puis vous êtes passé par le journalisme notamment, avant de rejoindre Europe Écologie Les Verts en 2009. Vous étiez, Emmanuel Cos, déjà candidate en 2010 sur la liste régionale en Ile-de-France et vous êtes devenue la vice-présidente du conseil régional d'Ile-de-France, chargée notamment du logement. Donc on va en parler, on vous reçoit aussi pour parler de votre bilan. Mais en 2013, quand même important de le signaler, promotion en quelque sorte, vous avez été élue secrétaire nationale de votre parti Europe Écologie Les Verts. Alors, Emmanuel Cos, avant de revenir sur votre bilan à la région, sur votre campagne, vous avez publié hier une version grand public, on va dire, de votre programme. Votre slogan, c'est « Changer d'air ». Et vous promettez, si on applique votre programme, la création de 200 000 emplois. Est-ce que c'est pas un peu démagogique de promettre des choses pareilles?
Absolument pas, à partir du moment où on les promet, parce qu'on sait qu'on peut les faire. Et s'il y a bien une chose à laquelle je me refuse toujours, même si c'est... pas le cas beaucoup de mes concurrents, de mes adversaires, c'est de faire la démagogie en politique. Parce que je crois que c'est justement le trop-plein de démagogie et de petites phrases qui fait qu'aujourd'hui, on a une telle difficulté en politique. Ce que j'ai présenté dans mon programme, et donc en effet, notre slogan, c'est « Changeons d'air pour l'Île-de-France », c'est qu'avoir un modèle de développement économique différent dans cette région, notamment dans la transition écologique de l'économie, que ça soit... la rénovation des logements, il y a beaucoup à faire en Île-de-France.
On va en parler.
Produire des énergies renouvelables, travailler dans l'économie circulaire et l'économie numérique, c'est porteur de création d'emplois dans cette région.
Mmh. Et ah, moi, si je, vous,
si, et
si
je dis ça, c'est parce qu'on parle souvent d'Île-de-France comme cette grande métropole qui doit être l'attraction mondiale, internationale, et que c'est comme ça qu'on répondra aux problèmes de notre région. La réalité, c'est que l'Île-de-France, c'est une région formidable où il y a aussi beaucoup de problèmes d'absence d'emploi et de pauvreté, et que je crois qu'il faut y répondre des solutions territoriales. Alors, et donc franciliennes.
Si je vous pose la question, c'est notamment parce que ça fait penser à d'autres phrases, à d'autres arguments qui sont par exemple évoqués par un projet qui s'appelle Europa City, hein, qui est en gros un grand complexe de loisirs soutenu par le gouvernement, qui doit avoir le jour au nord de Paris et qui lui promet la création de 11 500 emplois. Alors vous êtes opposé à ce projet en disant que c'est notamment pas réaliste d'avoir des chiffres pareils. Alors quoi, c'est un peu à qui promet le plus d'emplois en Ile-de-France?
Absolument pas. Vous me parlez d'un projet qui promet de construire une piste de ski au milieu de terres agricoles aujourd'hui et qui est surtout le point d'entrée d'Auchan qui a un problème de part de marché sur l'Île-de-France. Et notre opposition à ce projet-là, c'est qu'il promet d'installer un nouveau centre commercial alors qu'en Île-de-France, il y en a déjà trop et que beaucoup aujourd'hui ne fonctionnent pas économiquement parce qu'il y a une concurrence trop forte et qu'en plus, ça va sur des terres agricoles dont on a extrêmement besoin. Moi, ce que je dis simplement, c'est que quand on s'engage, comme nous le faisons par exemple, pour remplacer tous les bus en transport en commun qui sont diesel aujourd'hui, les bus de la RATP et du réseau Optile, c'est 9000 bus à remplacer. Des bus qui vont être produits notamment en Île-de-France et aussi dans d'autres infrastructures en France. finance, c'est de la création d'emplois locaux. Quand je finance des logements sociaux, des logements étudiants avec des subventions de la région Île-de-France, on a derrière de l'emploi local qui est créé, notamment dans la construction. Donc non, ce n'est pas de la démagogie et pas c'est celui qui a plus d'emplois. Pourquoi est-ce que nous, pour vous répondre,
allez-y,
nous avons voulu montrer que notre projet est aussi vecteur d'emploi? C'est qu'il nous semble essentiel en tant qu'écologiste de rappeler que l'écologie en action, c'est un autre modèle de développement et ce n'est pas un projet qui est contre ni la solidarité ni l'emploi, mais qui justement crée un autre type d'emploi. Et c'est pour cette raison qu'il ne s'agit pas de sortir des chiffres n'importe comment, ils sont chiffrés, ils sont étudiés, et nous voulons montrer que ce que nous portons est en fait une manière de développer autrement la région.
Et développer autrement la région, on vous entend. On va parler à présent, Emmanuel Cosse, environnement et transport, justement puisque vous commencez à l'évoquer avec Loïc.
Alors, on va commencer par parler transport. En lisant votre programme, on a l'impression que vous voulez mener une politique contre l'utilisation de la voiture et un peu même une politique contre les automobilistes. Or, beaucoup d'usagers utilisent leur voiture car ils n'ont pas le choix étant donné la mauvaise desserte des banlieues. Est-ce que ce n'est pas un peu leur imposer une double punition que rend l'accès au centre-ville de Paris plus compliqué sans pour autant proposer de transports en commun qui vont avec?
Si vous avez bien lu notre programme, notre objectif, c'est surtout de réduire la pollution de l'air dans la région Île-de-France, qui est une région où on vit mal, et notamment parce que...
D'où le slogan « changer d'air ».
D'où le slogan « changer d'air », mais voilà. Simplement, je ne sais pas où vous avez grandi et depuis combien de temps vous vivez en Île-de-France, mais dans notre région, nous avons en gros sur l'année 3 à 4 jours d'air pur. Dans l'année.
Et ce qui ne fait pas beaucoup. Oui.
Ce qui est très faible et surtout, que l'on soit jeune ou moins jeune ou très jeune, nous sommes tous très exposés à une pollution extrêmement forte qui a un impact sur notre santé, y compris sur notre espérance de vie. Nous payons cette pollution de l'air. Il y a 6 mois d'espérance de vie en moins pour les habitants en France des grandes agglomérations, dont Paris.
Et ça, concrètement, dans les dernières années, ça n'a pas, dans les 5 années où vous étiez notamment à la région, ça n'a pas énormément évolué?
Ça a évolué et ça a même évolué, y compris à Paris, où en 15 ans, la part de la place de la voiture a quand même baissé de 30%. Ça vous donne juste une idée de comment c'était avant. Mais en même temps, il y a aussi eu un développement des polluants. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut se battre sur qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui roule. Et notamment, la part du diesel qui est aujourd'hui extrêmement importante dans le parc automobile et qui joue un rôle extrêmement fort dans cette pollution.
Donc, il ne faut pas supprimer la voiture, mais il faut diminuer
les polluants.
Et surtout, ce que
nous expliquons, c'est que pour lutter contre la pollution de l'air, il faut aider les gens à, de toute façon, être mobiles. Ça veut donc dire plus de transports en commun, plus de modes différents de transport, comme par exemple le transport à la demande, mais aussi de remplacer des voitures. Je rencontre tous les jours des personnes qui, en effet, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser un véhicule pour aller travailler ou pour s'occuper de leur famille ou de leurs enfants. Mais par contre, on peut avoir le choix de ne pas rouler avec un véhicule polluant. Et c'est pour ça que nous souhaitons les aider par des subventions pour changer de véhicule. Et ensuite, si vous lisez bien notre programme, nous continuons à demander une extension forte, je le sais bien, une extension forte des transports en commun.
D'accord.
Nous sommes dans une région de 12 millions d'habitants. Il y a à peu près 8 à 9 millions d'habitants qui vivent dans la zone dense et dans la zone périurbaine et qui ont besoin tous les jours d'aller travailler. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on utilise des modes collectifs qui permettent à tout le monde de se déplacer ou des modes individuels qui en plus sont très chers, parce que avoir une voiture individuelle et être seul dedans chaque jour de l'année, c'est extrêmement cher pour un particulier.
Dans votre programme, vous proposez justement d'offrir 1 an d'abonnement à un pass Navigo à toute personne qui abandonnerait son véhicule polluant. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, que ça peut motiver les gens?
C'est en tout cas un moyen, si vous voulez. Aujourd'hui, quand on abandonne un véhicule polluant pour un véhicule propre, on a des aides fiscales, des subventions de la ville de Paris. Mais quand on abandonne tout court son véhicule, et moi je connais des gens qui ont décidé, par exemple à la retraite, d'abandonner leur véhicule, ils n'ont rien. Donc il me semble extrêmement important simplement de dire vous avez un pass Navigo et d'avoir des mesures incitatives. C'est pas que la région qui peut inciter, c'est aussi l'ensemble des collectivités autour. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut encourager les personnes qui aujourd'hui sont conscientes de leur impact sur la pollution, qui sont prêtes à évoluer de comportement, mais qui ont aussi un peu besoin quand même d'incitation.
Il y a aussi un problème de pollution dans les transports en commun,
bien
notamment
sûr,
dans les métros et dans les RER. En lisant votre programme, vous me dites si je l'ai peut-être mal lu ou je ne l'ai pas vu, mais vous ne proposez pas de solution spécifiquement sur ce point-là.
C'est un sujet extrêmement compliqué. Il y a aujourd'hui une pollution, mais ce qui n'est pas simplement les transports. La question de la pollution de l'air intérieur est un enjeu majeur dans les logements, dans les endroits où on travaille et aussi évidemment, notamment dans le métro. Pas spécialement pour les voyageurs. Le sujet se pose pour les agents qui sont plusieurs heures durant dans ces, soit dans les accueils, soit en train de conduire ces métros. Et là-dessus, d'une part, nous voulons, nous, une évolution des capteurs pour pouvoir justement permettre d'avoir des données beaucoup plus fiables, des mesures de prévention, un suivi médical. Et enfin, évidemment, il y a des moyens de travailler dessus. Et tout simplement, je vais vous dire, sur des sujets... Je rentre un peu dans le technique et ce n'est pas mon domaine le plus fort, mais notamment allez-y. Sur la question de la vitesse et notamment des freinages qui sont en fait des moments où il y a des émissions de pollution extrêmement fortes.
Alors vous dites dans votre programme vouloir végétaliser l'Île-de-France, vous parlez de quoi ? De mettre des arbres, des points d'eau, vous pensez vraiment que végétaliser l'Île-de-France, ça va permettre d'améliorer la qualité de l'air, de lutter contre le réchauffement climatique ?
On a surtout un enjeu très compliqué qui est de réduire ce qu'on appelle les îlots de chaleur, ce qui est notamment le cas à Paris, c'est-à-dire des endroits où la température est plus forte du fait de la densité humaine, de la densité de l'activité, et nous sommes par ailleurs dans une métropole extrêmement minérale, où il y a très peu de place au végétal, contrairement par exemple à une ville comme Londres. Beaucoup d'études ont montré que quand vous habitez à 10 minutes d'un espace vert, vous allez mieux, votre santé est meilleure. Ce sont des études extrêmement importantes qui l'ont montré, tout simplement parce que déjà vous avez une empreinte moins forte des pollutions et en plus parce que vous marchez pour bénéficier de ces espaces-là.
Donc il faut plus de ces espaces verts dans la ville.
En même temps, Paris est Paris, construit comme cela. Vous n'allez pas non plus détruire...
Central Park, détruire encore qu'il y a eu des projets des qui ont vu le jour. Mais...
Oui, mais déjà, il y a un sujet majeur qui est de remettre du végétal et de l'eau au cœur de la ville. On est ici, pas très loin d'un des bouts du canal, qui a été couvert il y a fort longtemps.
On est à Bastille, pour ceux qui nous
exactement,
écoutent.
Exactement. Vous connaissez peut-être l'histoire de la Bièvre, qui était un cours d'eau totalement enterré, qui traverse Paris, qui va des Yvelines dans le Val-de-Marne, et qui aujourd'hui est reconquis pour redonner cette place-là. Et puis à côté, d'avoir du végétal. Quand vous vivez, par exemple, à Paris ou dans des villes de banlieue très urbaines, vous avez une chaleur extrêmement forte et par une absence de minéral très fort, remettre des arbres, d'avoir des toitures végétalisées, avoir des murs végétalisés, ça permet
d'améliorer
lutter contre le dérèglement climatique et d'améliorer aussi le bien-être de chacun.
De la population. On continue à parler de votre programme dans un instant, Emmanuel Cosse, après une petite pause musicale.
I'm
écoutiez à l'instant Mountains at My Gates de Falls.
La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours dans la matinale avec nous sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et on est toujours avec Emmanuel Cos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, pour parler régional. Alors Emmanuel Cos, je le disais en introduction, vous avez été vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France, chargée notamment du logement, donc vous avez été aux commandes, si j'ose dire. Pourtant, l'opposition notamment vous accuse de ne pas avoir tenu votre engagement de 70 000 logements par an construits. On évoque 46 500 mises en chantier seulement en 2014. On évoque aussi 500 000 familles franciliennes en attente d'un logement. Alors, concrètement, c'est quoi ? C'est l'arrêté du terrain qui s'est... L'arrêté du terrain s'est imposé à vous, en quelque sorte ?
Vous savez, j'accepte beaucoup de critiques, mais pas du tout les critiques de la droite qui, aujourd'hui, a fait en sorte qu'il y ait moins de logements construits, puisque en Île-de-France, après les municipales de 2014, plusieurs maires nouvellement élus de la majorité des Républicains ont supprimé des permis de construire, et c'est au moins 10 à 15 000 logements qui n'ont pas vu le jour par cela. Alors, pour vous dire les choses franchement, moi, je n'ai pas fait de promesse en nombre de logements. La région Île-de-France et l'État ont fixé un chiffre de 70 000 logements annuels pour répondre à la crise et aux besoins en Île-de-France. Notre région connaît une situation de mal logement depuis 30 ans, qui en fait s'explique par plusieurs choses. D'une part, une spéculation immobilière qui est ancienne et réelle, une très forte attractivité de la région Île-de-France par rapport à d'autres, et y compris, puisque je suis ici sur Radio Campus, mais vous le savez, la population étudiante double à partir du Master 2. Et on peut s'interroger sur cette concentration sur les dernières années des études supérieures en Île-de-France, qui aussi veut dire qu'on doit répondre à cette arrivée très importante d'étudiants de province et aussi d'étudiants étrangers.
Il faut décentraliser au niveau des étudiants, aller vers davantage
En tout cas, je pense que autant il est intéressant qu'il y ait des concentrations sur certains secteurs, mais est-ce que c'est à l'Île-de-France d'avoir en son sein autant d'attractivité au niveau des études, et je ne parle pas uniquement des universités, parce qu'il y a derrière aussi pas mal de formations, derrière d'autres filières plus professionnelles, et y compris, je pense que beaucoup de villes de région aujourd'hui peuvent accueillir avec qualité des étudiants étrangers. Et juste pour finir, dans nos besoins, c'est aussi une région qui, aujourd'hui, voit des familles qui veulent rester. Donc autrefois, il y avait ce mouvement souvent que les familles avec quelques enfants partaient de l'Île-de-France, mais l'emploi étant très important dans cette région, beaucoup veulent y rester. Et puis des personnes âgées qui ont vécu ces 40 ou 50 dernières années en Île-de-France, qui aujourd'hui à la retraite disent « Pourquoi est-ce que je quitterais une métropole, une ville comme Paris ou d'autres villes où j'ai des services publics extrêmement importants ?» Et donc cela veut dire qu'en même temps, on doit répondre à toutes ces urgences.
Alors comment est-ce que vous y répondez alors concrètement à toutes ces urgences? Vous voulez quand même maintenir cet objectif de 70 000 nouveaux logements chaque
année.
Évidemment,
c'est pas parce qu'un objectif...
Notamment 5 000 pour les étudiants.
Absolument. Ce n'est pas parce qu'un objectif n'a pas été réalisé qu'il ne faut pas l'enlever, parce que c'est l'objectif vers lequel on doit aller si on veut résoudre la crise. Ensuite, la région Île-de-France qui n'a aucune compétence en matière de logement. Et c'est là tout le paradoxe, et c'est intéressant de voir que je suis attaquée aujourd'hui là-dessus. Ouais. La région n'a aucune compétence obligatoire en matière de logement, mais moi et aussi la majorité avec qui je travaillais ont décidé d'avoir un budget très important sur le logement ces 5 dernières années pour construire du logement social, construire du logement pour les étudiants et les jeunes actifs, réhabiliter des logements dégradés. Et aujourd'hui, oui, il faut poursuivre cela, aller même plus loin.
Aller regarder du côté du foncier non bâti aussi. Alors c'est ce que propose aussi Valérie Pécresse, qui propose d'aller regarder ce qui existe notamment autour des lycées pour construire une partie des logements étudiants. Vous êtes d'accord avec ça ?
Mais vous savez, en Île-de-France, il n'y a pas un problème de foncier en soi. Il y en a du foncier. La question, c'est qu'il est souvent très cher et souvent pollué. Mais je peux vous dire que même à Neuilly-sur-Seine, on a construit. La question, c'est on construit quoi ? Dans le 7e arrondissement, on a construit sur une ancienne emprise d'APHP, on a construit 400 logements, dont seulement 80 logements sociaux. Il faut aussi arrêter de raconter n'importe quoi sur logement. On a construit des opérations à côté du bon marché qui sont à des niveaux au-delà de 20 000 euros du mètre carré. Donc, si je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir où est-ce qu'on doit construire. On a des capacités à construire. Simplement, il faut lever des obstacles. Un, quand même, le prix du foncier en général. Deux, des maires qui bloquent des permis de construire parce qu'ils ne veulent pas accueillir des logements sociaux ou des logements à loyer modéré, alors même que le logement social concerne 65% des franciliens. Et ensuite, il faut aussi accepter de construire pour tout le monde. Je vais vous donner un seul exemple. J'ai milité pour qu'il y ait plus de logements étudiants et pour les jeunes actifs, soit des résidences universitaires, soit des résidences mixtes, à des loyers modérés. Donc je parle de logements sociaux.
Vous en remettez 5 000 par an.
Absolument,
de
la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 3 000 à 3 500 en fonction des années. J'ai rencontré des élus qui m'ont dit « je ne veux pas de jeunes chez moi ». C'est quand même la réalité de l'Île-de-France. Et je n'arrivais pas à comprendre, parce que pour moi, à un moment, avoir ce type d'hébergement, enfin, de logement, permet aussi de moderniser une ville, d'amener une nouvelle population. Ils m'ont dit, c'est très simple, les étudiants ne votent pas, ils ne restent pas longtemps. Mmh. Est-ce que c'est ça la perception que l'on veut avoir de cette région? Est-ce que c'est ça le programme que nous propose notamment la droite pour les prochaines élections? Je ne l'espère pas, parce que si c'est ça, ça veut dire qu'on n'aura pas de notre côté toutes les chances pour justement aller de l'avant. Et la dernière chose dont je voulais parler quand même là-dessus.
Écoute, c'est que parler de l'encadrement des loyers
justement,
rapidement.
Justement, j'allais y venir.
Parce que vous voulez, les professionnels de la gestion locative disent que depuis la loi Allure, que la ministre Duflot avait mis en place à l'époque, 15% des loyers ont baissé. Vous dites ça, c'est pas assez, il faut aller plus loin, il faut encadrer davantage.
La loi Allure a permis de mettre en œuvre l'encadrement des loyers. Et au départ, l'encadrement des loyers en Île-de-France devait s'exercer sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. Mmh. Un Premier ministre actuellement en fonction a décidé de restreindre cet encadrement des loyers sur Paris. Au titre...
Pas le nom du ministre en
et
question.
Et aujourd'hui, l'encadrement des loyers est rentré en vigueur à Paris au mois d'août. On a vu une baisse réelle des loyers, avec encore plein de cas sur lesquels il faut encore fonctionner.
15%, hein,
mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'accepte pas que le périphérique de Paris redevienne une frontière. Il n'y a pas de raison qu'on encadre des loyers à l'intérieur de Paris et pas à l'extérieur, alors que la spéculation locative est très forte. Et en plus, cela va de pair avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les jeunes. Quand on arrive en Île-de-France aujourd'hui, il se trouve que j'ai inauguré des logements étudiants la semaine dernière, que j'ai rencontré une étudiante qui m'a encore raconté quelque chose que beaucoup connaissent. Elle se fait arnaquer par un agent immobilier qui lui a proposé une liste de logements contre paiement d'un forfait. Derrière, tous les logements étaient pris, certains n'étaient même pas éligibles à la location. Et donc, c'est pour ça que ce combat, il faut le poursuivre. Il ne faut pas raconter d'histoire.
Il faut poursuivre cet encadrement
des loyers. Pour gagner ce combat, il faut faire baisser les prix et il faut mettre plus d'offres de logements sur le terrain. Donc, ça veut dire quand même de construire plus, construire mieux et construire pas cher.
D'accord. Alors Emmanuel Cosse, venons à présent, si vous le voulez bien, à la stratégie politique avec Thibault.
Emmanuel Cosse, votre candidature, c'est une fenêtre d'opinion ou vous pensez réellement avoir vos chances ?
Je pense que quand on se présente à une élection régionale, de toute manière, c'est jamais simplement pour, comme vous dites, être une fenêtre d'opinion.
Parce que vous faites 7% pour le moment environ dans les sondages.
9, mais les sondages que vous voulez. Oui. Mais de toute manière, si on se disait qu'on ne se présente que seulement le jour où on va l'emporter, ça veut dire que vous ne présentez jamais à vos électeurs des diversités de projets. Mmh. Et la démocratie en soi, c'est quand même assez simple. C'est aussi d'avoir une pluralité de projets, d'autant plus dans une élection régionale qui se fait au scrutin à la proportionnelle. Et donc, les majorités qui sortiront de cette élection sont des majorités plurielles.
On va revenir sur votre parti. Vous, notamment, vous avez déclaré aimer le rugby plus que le football. Les valeurs du rugby, ce sont la solidarité, l'esprit d'équipe, tout donner pour ses coéquipiers. L'intérêt collectif, vous me voyez venir. Bizarrement, Europe Écologie Les Verts, c'est plutôt l'inverse, non ?
Europe Écologie, non. Je crois que Europe Écologie en soi porte l'intérêt collectif. Après, il y a certains de ses membres qui ont souvent une vision un peu trop personnelle et individuelle des choses. Moi, ça n'a jamais été ma conviction en politique. Ça a été dit tout à l'heure, j'ai été militante longtemps de la lutte contre le sida. J'ai toujours fait les choses en groupe. Je continue à les faire.
Je parle au sein du parti. Hein.
Oui, oui, mais je vous explique, moi, ma manière de, y compris gérer ce parti et de faire les choses, c'est de le faire de manière collective et de ne pas me mettre en avant d'imposer mes choix personnels à ce collectif. Mais je ne dis pas que tout le monde a cette même maturité dans mon parti.
Vous parlez des ambitions. Je voudrais notamment revenir sur le départ de Laure Châtelier, qui était votre tête de liste dans les Hauts-de-Seine. Elle est partie en septembre en déclarant « Nous avions l'espoir l'espoir pour Horizon. Aujourd'hui, quand j'ouvre mes mails, il n'y a que désespérance, insultes, règlement de compte. Nous sommes collectivement responsables et coupables d'avoir laissé nos rêves se briser sur l'écume de la politique aérie et des petits calculs. Que reste-t-il aujourd'hui d'Europe Écologie, un parti rogné par les ambitions personnelles, c'est ça que vous...
Non, et puis vous citez une personne avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, avec qui je partage des bureaux, donc j'étais quand même très proche de Laure. C'est elle qui a fait le choix à un moment de partir de cette aventure de manière très individuelle, avec des mots qui sont extrêmement durs, qui sont peut-être son ressenti, et moi je ne critique pas le ressenti des autres, mais la réalité c'est que c'est pas parce qu'on jette l'opprobre sur des gens que ce qui est dit est vrai, et que les écologistes tous les jours se battent pour vraiment changer la vie. Et je peux vous dire une chose, c'est que si en Ile-de-France, on ne s'était pas battu comme des chiens pendant 5 ans pour qu'il y ait un passe-navigo à tarif unique, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Parce que toutes celles et ceux qui aujourd'hui disent que c'est formidable et qu'ils étaient pour, la réalité, c'est que pendant 4 ans et demi, ils ne voulaient pas de cette mesure, alors même qu'elle aide 5 millions de personnes en Ile-de-France. Je dis bien 5 millions de personnes. Et c'est pour ça qu'à un moment... Moi, je le redis, les ambitions personnelles, ce n'est pas mon sujet. Que des gens aient des désaccords politiques, on peut en avoir, y compris dans mon parti, énormément. Mais il y a un moment, quand on a la COP21 qui arrive, quand on a des élections régionales, on est aussi capable de travailler pour le collectif. Et travailler pour le collectif, ça veut aussi dire travailler pour l'écologie.
Je vais recontextualiser un petit peu aussi à propos de Jean-Vincent Placé et François de Rugy qui ont quitté le parti cet été. Ils sont partis créer l'Union des démocrates et écologistes. Jean-Vincent Placé a rejoint avec 10 autres membres de l'UDE, la liste du Parti socialiste. Quel est votre avis sur cette place dans la liste de Claude Bartolone, justement?
Vous savez, moi, je n'ai pas d'avis sur comment mes concurrents font leur liste. Hein. Ils les font comme ils l'entendent.
Ce sont vos concurrents aujourd'hui?
Bah oui, on se présente à une élection. Donc la réalité, c'est qu'au premier tour, nous sommes tous concurrents et nous avons des projets différents. Et ce n'est pas à moi de commenter la manière dont Claude Bartolone fait ses listes et avec qui il
les fait. Vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente avec le PS?
Mais ce n'est pas le sujet.
Vous ne seriez pas plus fort avec le PS?
Non. Et surtout, ce n'est pas le sujet. Je pense que dans une élection, quand il y a deux tours, à des élections régionales, au premier tour, on présente ses choix et au second, on trie et au second tour, on élimine. Et il faut à un moment aussi aller chercher des électeurs. Parce que vous croyez que les écologistes vont voter à des élections s'ils n'ont pas devant eux un projet écologiste ? Est-ce qu'on va faire croire que le projet socialiste, quand on voit que Manuel Valls relance à Notre-Dame-des-Landes, est porteur d'écologie ? C'est pour cette raison aussi qu'à un moment, les écologistes, comme d'ailleurs les communistes, comme d'ailleurs des tas de personnes, présentent leur projet. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on nous pose toujours à nous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on présente des projets. Est-ce qu'on interroge le PS pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne fusionne pas avec tout le monde plutôt que de présenter un projet socialiste?
Le PS est plus fort, dans la manière d'avoir les votes.
Il est peut-être plus fort, mais il n'est rien sans les autres. Il n'est rien sans les autres. Et je vous rappelle que dans toutes les villes, il n'aurait gagné aucune ville sans le soutien des autres forces politiques.
Une dernière question justement, consigne de vote, si vous n'êtes pas au second tour.
On en parle le 6 décembre à 20h. Comme toujours, on ne fait jamais l'élection avant qu'elle ait eu lieu. On commence par le premier tour et on voit le second ensuite.
Eh bien, magnifique. Merci Emmanuel Cosse d'avoir été notre invité. On vous retrouvera peut-être à la COP21, hein, ou notamment à Radio Campus. En tout cas, nous on y sera et on a cru comprendre que vous également, malgré la campagne. Merci encore une fois Emmanuel Cosse d'avoir été avec nous dans la matinale.
Radio Campus Paris.